France Inter.
Le journal. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Que s'est-il passé à Viry-Châtillon après la mort de Shamseddine, 15 ans, roué de coups à la sortie du collège? L'enquête est désormais ouverte pour assassinat. On l'apprend à l'instant, un adolescent de 17 ans a été interpellé. Nous ferons le point dès le début de ce journal. La nation est endeuillée, dit la ministre de l'Éducation. Au collège des Sablons, les élèves sont sous le choc, entre tristesse et incrédulité. Vous entendrez le témoignage du père d'un collégien. L'actualité ce soir, c'est aussi l'armée israélienne qui reconnaît des erreurs grave après les tirs sur un convoi humanitaire à Gaza. Le malaise des agriculteurs toujours à vif. Les services de l'État sont appelés à la vigilance sur les risques de suicide dans la profession. Quelle alternative aux PFAS, ces polluants éternels, dans les ustensiles de cuisine? On vous donne des pistes. On ira dorloter les abeilles, elles en ont bien besoin, avec des élèves de 6e dans la Creuse. Et puis Beyoncé, reine de tous les charts, même ceux de musique country. C'est le top musique du vendredi. Et au téléphone sonne, Claire.
Eh bien, on va parler des allergies ce soir, allergies de saison. Du fait des pollens, elles sont en très forte augmentation. On estime que 20 à 30% de la population est concernée. On tentera de comprendre pourquoi, si le changement climatique et la pollution y sont pour quelque chose. Mais on ne se limitera pas à ces allergies respiratoires. On parlera aussi des allergies alimentaires, médicamenteuses, aux acariens, aux animaux. On parlera également prévention et traitement. Le sujet est vaste. Nos invités pourront répondre à toutes vos questions. 01 45 24 7000.
France Inter.
Il n'a pas survécu à ses blessures. Shamseddine avait 15 ans, surnommé Shams par ses amis. Il est mort cet après-midi à l'hôpital Necker à Paris. Le garçon avait été roué de coups hier vers 16h alors qu'il sortait de son collège de Viry-Châtillon. L'enquête est désormais ouverte pour assassinat et violence en réunion aux abords d'un établissement scolaire. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Du service police-justice de France Inter. Alors on sait que Shamseddine a été frappé par plusieurs personnes dans une rue près du collège et on vient de l'apprendre, Emmanuel, un adolescent a été arrêté.
Oui, c'est le procureur de la République d'Evry, Grégoire Dulin, qui l'a annoncé il y a quelques minutes. Effectivement, un mineur de 17 ans a été interpellé et il a été placé aussitôt en garde à vue. On sait également qu'une autopsie doit avoir lieu dans les prochaines heures. L'adolescent, vous l'avez dit, a été passé à tabac entre 16h et 16h30, a priori pas très loin du collège, par plusieurs individus. C'est un automobiliste, en fait, qui a vu plusieurs jeunes gens qui portaient des cagoules qui sortaient en courant d'une allée. Le conducteur a alors fait carrément demi-tour et c'est là qu'il a aperçu le corps du jeune garçon allongé en plein milieu de la ruelle, déjà inconscient. Depuis, c'est la police judiciaire qui a été chargée de l'enquête, la police judiciaire du département de l'Essonne. Des images de vidéosurveillance ont été récupérées auprès de la police municipale et dans le quartier plutôt tranquille de cette commune de Viry-Châtillon. Pour l'instant, on sait juste que les agresseurs n'étaient pas armés et c'est l'acharnement à coups de pied et de poing qui aurait entraîné la mort de l'adolescent. Pour l'instant, on ne sait rien de plus sur l'origine de ce guet-apens. Guerre de bande pour un contentieux sportif, amoureux, une histoire de drogue aussi, et évidemment, ou plus simplement, malheureusement, une embrouille sur les réseaux sociaux qui dégénère. C'est donc l'enquête qui le dira après l'arrestation donc d'un suspect âgé de 17 ans.
Merci Emmanuel Leclerc, service police-justice de France Inter. La nation tout entière est endeuillée, a écrit sur X la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet. Elle s'est rendue dans le collège des Sablons cet après-midi pour observer une minute de silence avec les équipes du collège et le maire de la ville. Les camarades de classe du garçon sont sous le choc. Écoutez Gabriel, il est le père d'un collégien de Viry-Châtillon.
Pour nous, c'est très malheureux, les habitants de Viry-Châtillon. C'est triste. Et j'ai vu sortir les enfants de l'école. Là, tout le monde était en pleurs, tous les enfants. Et j'ai vu le maire pleurer. C'était beaucoup d'émotions. Le maire, pour un papa comme moi, qui a un enfant de cet âge, c'est tout simplement triste. Ça interpelle beaucoup parce que finalement, c'était toute une préméditation. Il était attendu. Et donc, pour être lynché, finalement, pour lui donner la mort, eh ben, l'enquête sera ouverte. J'espère que les coupables seront retrouvés. Mais pour nous, c'est très malheureux.
Voilà Gabriel, le père d'un collégien, au micro de Sarah Mansoura. Une mort traumatisante dans un contexte déjà très tendu. Trois jours après l'agression d'une autre collégienne de 13 ans à Montpellier, la jeune Samara est sortie du coma. Ses jours ne sont plus en danger. Trois adolescents de 14 et 15 ans ont été interpellés. Ils ont reconnu avoir frappé la jeune fille. Nous serons intraitables contre toute forme de violence, a dit ce matin le chef de l'État qui visitait une école parisienne. Pour Emmanuel Macron, Macron, l'école doit rester un sanctuaire pour nos enfants, leurs familles et nos enseignants. Un déplacement du chef de l'État ce matin pour annoncer un changement dans la formation des enseignants. Le concours pour devenir professeur des écoles, ce sera désormais à Bac plus 3 au lieu de Bac plus 5 actuellement. Objectif pour le chef de l'État, mieux former, mieux préparer et mieux reconnaître ceux qui veulent s'engager dans ce métier. Sophie Vénétité du syndicat SNES-FSU alerte sur une réforme synonyme, selon elle, de déqualification de nos métiers.
L'armée israélienne reconnaît une grave erreur après la frappe sur un convoi humanitaire à Gaza.
7 travailleurs de l'ONG américaine World Central Kitchen sont morts lundi soir, tués par 3 frappes en l'espace de 4 minutes. Leur convoi roulait vers le sud de la bande de Gaza et avait pourtant prévenu les autorités de son parcours. Alors que s'est-il passé? L'armée israélienne, c'est rare, annonce le limogeage de 2 officiers et reconnaît, Omar Waman, une série d'erreurs.
Selon les conclusions de l'enquête de l'armée israélienne, l'équipe aux commandes des drones, à l'origine des frappes, 3 tirés en l'espace de 4 minutes, assure avoir repéré et visé un homme armé du Hamas posté depuis le toit d'un des camions humanitaires que les collaborateurs de l'ONG World Central Kitchen étaient en train d'escorter. Vidéo à l'appui, les gradés de Tzahal ont expliqué que la caméra du drone qui a fait feu ne pouvait pas distinguer le logo de l'ONG sur le toit des véhicules en raison de l'obscurité. Il était plus de 22 heures, cela a été un facteur clé dans la chaîne des événements. L'état-major évoque en outre des violations des procédures opérationnelles doublées d'une faille dans le système de communication. L'ONG avait bien transmis à l'avance le plan de déplacement du convoi composé de 3 véhicules, mais les militaires chargés des frappes ne les avaient pas en main. Des explications loin de satisfaire l'ONG américaine qui a demandé la création d'une commission d'enquête indépendante.
Omar Waman, et puis la pression internationale s'accentue sur Israël pour augmenter l'aide humanitaire à Gaza où la population est menacée par la famine. Pour la première fois hier, le président des États-Unis, Joe Biden, a évoqué la possibilité de conditionner l'aide américaine à des mesures tangibles. Et ce matin, Israël a autorisé des livraisons temporaires dans la bande de Gaza depuis le port d'Ashdod et le point de passage terrestre d'Erez. Des mesures éparpillées qui ne seront pas suffisantes, alerte le secrétaire général des Nations Unies. L'enclave est au bord du précipice, dit Antonio Guterres, qui s'inquiète aussi de l'utilisation de l'intelligence artificielle par l'armée israélienne.
Je suis profondément troublé par les informations selon lesquelles la campagne de bombardement de l'armée israélienne utilise l'intelligence artificielle comme outil d'identification des cibles, en particulier dans les zones résidentielles densément peuplées, ce qui se traduit par un nombre élevé de victimes civiles. Aucune décision de vie ou de mort ayant un impact sur des familles entières ne devrait être déléguée au froid calcul des algorithmes. L'intelligence artificielle devrait être utilisée comme une force du bien au bénéfice du monde, pas pour contribuer à faire la guerre à un niveau industriel en brouillant les responsabilités.
Antonio Guterres, traduit par Sébastien Paour. Tandis qu'à Genève, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU exige l'arrêt de toute vente d'armes à Israël dans une résolution qui évoque des craintes de génocide contre les Palestiniens. Texte voté par 28 des 47 membres du Conseil. La France s'est abstenue en raison notamment de cet emploi controversé du mot génocide. La crainte ce vendredi, c'est aussi celle d'une riposte iranienne après la frappe attribuée à Israël sur le consulat iranien à Damas. C'était lundi dernier. Aujourd'hui, le chef du mouvement pro-iranien Hezbollah assure qu'une réponse est inéluctable. Le Hezbollah est totalement préparé à toute guerre contre Israël, affirme Hassan Nasrallah. Sur le front maintenant de la guerre menée par la Russie en Ukraine, Kiev annonce avoir frappé fort en détruisant au moins 6 avions militaires russes sur une base aérienne près de Rostov-sur-le-Don, en territoire russe donc. Bonsoir Éric Biegala.
Bonsoir.
L'information n'est pas confirmée de sources indépendantes, mais elle est plausible, Éric.
Oui, elle est tout à fait plausible. Hein. Ce qu'il y a de certain, c'est que de très fortes explosions ont été entendues et même filmées sur la base aérienne Morozovsk, près de Rostov-sur-le-Don, tôt ce matin, sur l'une de ces vidéo mise en ligne sur une chaîne Telegram russe. On entend distinctement le moteur d'un drone quelques secondes avant son explosion sur la base et de voir une énorme boule de feu monter dans la nuit. Ce qu'il y a de certain également, c'est que sur cette base étaient stationnés hier 28 chasseurs-bombardiers russes, selon les images satellites de Planet Lab. arabe, prise hier et mise en ligne dans la foulée. Une cible de choix donc pour les drones kamikazes ukrainiens. Les chasseurs bombardiers stationnés à Rostov sont ceux du 559e régiment de bombardiers d'assaut de la Fédération de Russie. Ce sont eux qui tirent depuis l'espace aérien russe les missiles de croisière et larguent les bombes guidées, parfois d'une tonne et demie, qui font des ravages sur les lignes de front. S'il s'avère que les Ukrainiens ont effectivement, comme ils l'annoncent, détruit 6 appareils et touché 8 autres, ce serait en fait la moitié de la force aérienne visiblement présente à Rostov qui aurait été mise hors de combat. 3 autres bases aériennes russes semblent avoir été également visées la nuit dernière.
Merci Eric Biegala. Par ailleurs, la Russie intensifie ses opérations dans l'est de l'Ukraine. L'armée russe affirme avoir conquis la ville de Vodiané, tout près de Donetsk.
Il est 19h11 sur France Inter. L'État appelle à la vigilance sur les risques de suicide chez les agriculteurs.
C'est ce que révèle une note envoyée la semaine dernière par le gouvernement aux préfets et aux agences régionales de santé. Bonsoir Lucie Loconi.
Bonsoir.
Après la mobilisation des agriculteurs partout en France au début de l'année, les services de l'État estiment en effet que le risque est accru.
Il ne paraît pas excessif de redouter pour le mois à venir des vagues de suicide. Par ces termes, la note alerte les services de l'État, car après plus de 2 mois de mobilisation des agriculteurs, il a fallu regagner l'exploitation et pour beaucoup se retrouver seul, selon Olivier Damézin, coordinateur interministériel du plan de prévention du mal-être en agriculture.
J'ai eu plusieurs alertes où des personnes qui n'ont pas des problèmes financiers, qui n'ont pas des problèmes matériels, mais qui ont des problèmes d'isolement et de solitude, alors qu'elles ont passé des moments avec beaucoup de monde autour d'elles, dans l'animation et l'action, on va dire. Et il y a des personnes qui vivent très mal cette situation, parce que c'est des personnes qui étaient déjà fragilisées, donc on a des risques de suicide à ce moment-là. Quoi.
Le coordinateur s'appuie sur les remontées des 5000 sentinelles déployées en France pour repérer les agriculteurs en difficulté. Mais pour Marie-André Besson, présidente de l'association Solidarité Paysan, leur mal-être montre surtout que les mesures gouvernementales sont insuffisantes.
Si ça entraîne des risques chez les agriculteurs, c'est que les mesures ne répondent pas à leurs besoins. Il faut être réaliste. Ces aides à la trésorerie, elles ne sont pas accessibles à tous les agriculteurs. Un soutien et un accompagnement, ça peut permettre le redressement d'une exploitation. Et ça peut vraiment soulager des paysans.
Et il y a urgence pour Solidarité Paysan. Dans certaines de ces associations locales, les appels d'agriculteurs en détresse ont augmenté de 50% par rapport à l'année dernière, à la même période.
Merci Lucie Loconi, du service économie et sociale de France Inter. C'est une décision qui semble ne satisfaire personne. Le gouvernement accorde aux betteraviers le droit d'utiliser plus de pesticides pour tuer les pucerons. Ils pourront avoir droit à 5 passages de Movento au lieu de 2 habituellement. Les fortes pluies et la douceur ont fait proliférer les insectes. Pour la FNSEA, c'est indispensable mais insuffisant pour sauver toute la récolte. Ils demandent l'autorisation d'utiliser 2 autres produits, dont un néonicotinoïde qualifié de tueur d'abeilles par les défenseurs de l'environnement. Comment cuisiner sans s'intoxiquer ? Hier, une proposition de loi pour restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS, les polluants éternels, a été votée. Alors, les ustensiles de cuisine ont été exclus de ce projet de loi, de cette proposition de loi, pardon. Mais certains s'interrogent quand même. Peut-on éviter les revêtements anti-adhésifs des poêles et des casseroles ? Il existe des alternatives. Reportage dans un magasin d'ustensiles de cuisine, dans le centre de Paris, de François Vintéjou.
Dans les rayons, il y a des poêles et des casseroles du sol au plafond. Claire est une habituée du magasin. Elle a une demande bien spécifique.
Je cherche un petit plat à œuf qui ne soit pas enduit de produits qui soient anti-adhésifs ou autres.
Le vendeur Guy l'oriente vers un ustensile en fonte.
C'est le produit qui ferait son bonheur.
Et on est d'accord qu'il n'y a pas dessus des revêtements.
Non, pas de revêtements, non. C'est de la fonte.
Potentiellement toxique.
Non, c'est pas du tout toxique, c'est de la fonte émaillée. C'est ce qu'il y a de plus sain et aucun désagrément pour la santé.
L'inconvénient de la fonte, comme pour le fer, c'est le poids. Une casserole peut peser près de 5 kg et elle nécessite de l'entretien pour éviter la rouille. Toujours sans anti-adhésif, il existe les ustensiles en inox et en cuivre. Éric de Hulurin est le gérant du magasin.
L'inox est davantage fait pour des cuissons à feu plus doux qui nécessiteront quand même un petit peu de matière grasse ou de liquide à l'intérieur de manière à ce que vous n'attachiez pas dans vos cuissons.
Le cuivre, lui, va avoir une meilleure conduction de la chaleur. Au niveau des tarifs, pour une poêle en inox de fabrication française, comptez une 30aine d'euros. Pour les accroils anti-adhésifs, il existe des poêles anti-adhésives sans PFAS. Là, le tarif peut se rapprocher des 100 euros.
Reportage de François Vintéjou. Le principal accusé au procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg va faire appel. Audrey Mondjeyi a été condamné hier soir à 30 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes. Il avait fourni l'arme de l'auteur de l'attentat, Chérif Chekat. Il conteste avoir été au courant du projet d'attentat. C'est peut-être la résolution de la disparition d'un couple de Français il y a 3 semaines sur l'île portugaise de Madère. 2 corps ont été découverts dans une zone montagneuse, celui d'une femme hier et d'un homme ce matin. Les analyses ADN sont en cours pour confirmer leur identité. Ce couple originaire du Tarn-et-Garonne avait disparu après être parti se promener. Et puis attention, risque d'avalanche ce week-end dans les Pyrénées. Il fait déjà très chaud pour un mois d'avril. Ça va continuer à grimper demain avant de baisser dimanche. Les autorités invitent les randonneurs à la plus grande prudence. Eux, les abeilles, ils les dorlotent dans la Creuse, à Parsac. Des élèves de 6e étudient le cycle de vie des abeilles pour apprendre à les connaître, à les protéger. Pas besoin de ruches, ils ont un dorlotoir qui accueille les abeilles solitaires. C'est parti pour un cours de sciences de la vie et de la terre en situation avec Alexis Arades de France Bleu Creuse.
Direction le jardin du collège, Fanny Val, professeure de SVT, fait les présentations.
C'est un hôtel insecte un peu particulier qu'on appelle un dorlotoir.
À l'intérieur de ce qui ressemble à un nichoir, des tubes qui semblent habités par des petites bêtes.
Ici, vous avez en fait des abeilles qui ont fait leur vie toute la saison hein, et qui commencent là, juste au printemps, à se réactiver.
Ces traces de vie, ce sont des matériaux bien mystérieux, les hypothèses fusent, mais c'est Léon qui tombe juste.
Je crois en fait que c'est du pollen, parce que c'est jaune et tout ça, et à mon avis, c'est pour former des murs.
T'as tout à fait raison, ce sont des cloisons.
Les élèves de 6e vont observer le cycle de vie depuis le début, puisque de nouveaux cocons d'abeilles sont arrivés. Zoé prépare leur installation.
On est en train d'enlever les trous pour mettre des tubes pour qu'elles mettent leurs larves dedans.
Bientôt, les premières abeilles vont voler, un moyen de sensibiliser à l'importance de leur présence dans nos jardins. Et encore une fois, c'est Léon qui a bien compris pourquoi.
Le pollinisme, c'est très important parce que quand il y a des fleurs, par exemple, dans les arbres, c'est grâce aux fleurs qui naissent les fruits. Et si on n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits. S'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de fruits. C'est pour ça que les abeilles, c'est important de les préserver.
Les larves déposées cette saison dans le dorlotoir seront ensuite récupérées cet hiver pour contribuer à la réintroduction de l'abeille solitaire.
Voilà, j'ajoute, Léon a tout compris, s'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de confiture non plus.
Évidemment. Un rappel concernant le téléphone sonne, Corinne. Nous allons parler des allergies tout à l'heure. Les 3/4 de la France sont en alerte rouge en raison des pollens. C'est le printemps, cette saison, mais en plus il a beaucoup plu ces derniers jours. N'hésitez pas à appelez si vous avez des questions sur ces allergies respiratoires ou sur toutes les autres allergies, appelez le standard de France Inter.
Un mot de football, la lutte pour les places européennes continue ce soir en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Lille, 4e à 3 points du podium, reçoit Marseille, 7e au classement.
On termine ce journal en musique, Corinne.
Oui, il est arrivé à cheval avec son chapeau de cow-boy, enfin presque. Hein. Bonsoir Mathieu Culeron.
Bonsoir.
Comme tous les vendredis, on se penche sur les titres les plus écoutés en France et dans le monde. Et c'est donc une certaine chanteuse texane qui domine les charts, Mathieu.
Oui, pas de surprise, c'est Beyoncé qui est numéro 1 du top album en France, mais aussi en Australie, en Allemagne, en Suède, on peut pas tous les citer. Et encore plus impressionnant, elle classe 26 des 27 titres de l'album dans le top iTunes US, meilleur démarrage de l'année avec un disque déjà certifié or en une semaine aux États-Unis, 77 numéro 1 dans le monde sur Apple Music, Texas Hold'em qui est numéro 1 en Angleterre, en Nouvelle-Zélande et dans toute la Scandinavie. Parmi les titres les plus joués, ce morceau Bodyguard. So sweet, I give you kisses in the
backseat, I whisper secrets. Bodyguard, extrait de Cowboy Carter. Mais le titre qui cartonne le plus, Mathieu, c'est le premier single de l'album, Texas Hold'em.
Oui, là, ça va être très compliqué de faire mieux. Ce premier single devient le titre le plus écouté de Queen Bee sur Spotify devant Crazy in Love, avec eux un compteur qui affiche 247 millions d'écoutes et Beyoncé qui devient la chanteuse de country la mieux classée de l'histoire. Vengeance accomplie pour celle qui avait été très critiquée en 2016 pour sa prestation au Country Music Award. Réponse imparable de la chanteuse texane qui écrase les sceptiques de ses Santiago, notamment avec ce titre qui utilise un sample de Lee Hazlewood et Nancy Sinatra. These boots are made for walking, yeah, yeah, c'est le nom de ce morceau.
À Allez, on repart avec nos Santiago, Yaya, petit clin d'œil aux Beach Boys, Beyoncé, reine des ventes des écoutes en une semaine seulement avec son album Cowboy Carter. Merci beaucoup Mathieu Culeron. Je vous laisse après un dernier mot pour vous rappeler l'information principale de ce journal après la mort de Shamseddine, ce garçon de 15 ans à Viry-Châtillon. Un adolescent de 17 ans a été interpellé et placé en garde à vue. C'est une information du parquet d'Evry. On y revient bien sûr dans nos journaux de la soirée claire.
Merci beaucoup. C'était le journal de Corinne Audouin. On va prendre des nouvelles du temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Journée estivale demain.
Oui, avec un vent de sud qui nous apporte de l'air chaud, pas moins de 10 à 15 degrés demain matin, jusqu'à 22 même à Biarritz. Les températures s'envoleront pour l'après-midi. Elles seront quand même plus modérées près de la Méditerranée et sur le nord-ouest, avec seulement 15 degrés à Brest, 18 à Perpignan, 20 degrés à Nantes, 23 à Lille et Avignon, 27 degrés attendus à Paris, Mulhouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand et Grenoble, 29 à Bourges et 30 à Biarritz.
Et beaucoup de soleil.
Oui, sur la plupart des régions. Ce sera quand même souvent gris sur le Languedoc-Roussillon, et puis le ciel se voilera sur le nord-ouest le matin à l'approche d'une perturbation qui donnera un petit peu de pluie sur le Finistère. L'après-midi, les nuages élevés s'étendront de l'Aquitaine jusqu'au Pas-de-Calais. La pluie s'étendra à toute la Bretagne et au Cotentin. Et puis dimanche, baisse des températures nettes par l'ouest. On perdra parfois 6 à 10 degrés. On aura un passage pluvieux qui s'étendra de la Nouvelle-Aquitaine vers la frontière belge. Et puis il fera encore chaud dans l'est, 24 à 27 degrés sous le soleil.
Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.